Dans cette section, on va parler du paramétrage du service Exchange Online. Pour commencer, on va déjà parler des outils qui sont disponibles afin de gérer ce service de messagerie. Et donc, le premier, donc on va retrouver le Windows PowerShell, qui est tout simplement un outil en ligne de commande qui va permettre d'exécuter des commandes et des scripts pour pouvoir automatiser certaines tâches administratives. On a également le framework, ou ce qu'on appelle le contrôle d'accès, donc le role-based access control, qui est tout simplement un dispositif qui va permettre en fait de gérer la granularité d'accès des administrateurs. Typiquement, si vous avez un administrateur, vous souhaitez donner l'accès juste pour gérer certains utilisateurs ou pour gérer la partie recherche d'informations au niveau des boîtes aux lettres, on va pouvoir assigner ce qu'on appelle un rôle de gestion à un administrateur qui va lui permettre de réaliser uniquement ce type d'opération. C'est à ça que sert ce rôle ou ce dispositif qui s'appelle également RBAC. Ensuite, on a le Remote PowerShell. Remote PowerShell, c'est le même outil de base en ligne de commande. C'est les mêmes fonctionnalités que Windows PowerShell. Sauf que la différence, c'est qu'on va pouvoir gérer à distance et configurer à distance le service Exchange Online grâce à un module particulier qui s'appelle Remote PowerShell. Et enfin, on va retrouver le centre d'administration Exchange Online, qui est tout simplement l'interface graphique auquel on va pouvoir accéder via le portail d'administration Office 365, donc tout simplement via le navigateur web. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer directement à la démonstration où je vais vous démontrer rapidement certains aspects du paramétrage d'Exchange Online, typiquement comment je vais pouvoir créer des boîtes aux lettres partagées, comment je vais pouvoir également créer des groupes de distribution, ça peut être via PowerShell, ou encore comment réaliser une recherche d'éléments qui ont été supprimés par un utilisateur. Alors, afin d'accéder au portail d'administration, l'interface graphique d'Exchange Online, c'est assez simple. Vous allez sur le portail d'administration global, qui est toujours via la même URL, portal.office.com. Et puis ensuite, vous allez directement dans la partie administrateur, dans le menu de gauche, et vous cliquez sur Exchange. Donc, une fois que vous arrivez sur la partie Exchange, donc en fait là, vous avez accès à un tableau de bord qui est assez générique, qui va vous regrouper tous les raccourcis pour pouvoir paramétrer vos services. Et donc, le premier, on va plutôt configurer les destinataires. Et c'est à ce niveau-là que je vais pouvoir en fait configurer mes boîtes aux lettres. Je vais pouvoir, par exemple, pour certains utilisateurs, modifier les aspects d'archivage. Donc, typiquement, si je prends cet utilisateur qui s'appelle GuardForce, je vais pouvoir modifier certains paramètres, comme par exemple la messagerie unifiée. Je vais pouvoir désactiver ou activer l'archivage personnel. Et je vais également pouvoir activer ou désactiver tout ce qui est archivage, qu'on appelle la conservation inaltérable, qui est plus relative à la gestion de conformité, je vais en parler tout à l'heure. Ou encore pour activer ou pour lui donner accès, lui permettre d'accéder à son Outlook via le navigateur web. On va également pouvoir créer des groupes. Donc des groupes de sécurité, des groupes dynamiques, des groupes de distribution, donc de manière assez simple à ce niveau-là. Je vais pouvoir également créer des salles, ce qu'on appelle des ressources. Ça peut être des salles, ça peut être des équipements. Et ça se crée assez facilement. Donc ici, par exemple, je vais créer une boîte aux lettres de salle. Hop, créer la salle, par exemple, salle lumière. Lumière, et je vais choisir le nom de domaine. Je vais rester sur MSFR. Emplacement, je vais mettre deuxième étage. Capacité pour 15 personnes. Et je vais enregistrer. Et là, je vais avoir directement ma salle qui est créée. Ensuite, je vais pouvoir également gérer mes contacts. Donc, par exemple, des contacts qui sont externes à la société. Je peux pouvoir créer une liste de contacts et la mettre à disposition des utilisateurs. Je vais également pouvoir créer une boîte aux lettres partagée. Donc, juste un petit rappel, ce que c'est une boîte aux lettres partagée. Une boîte aux lettres partagée, tout simplement, donc, comme son nom l'indique, une boîte aux lettres qui est accessible par plusieurs utilisateurs. Et juste en termes de licence, il faut savoir que un membre qui va faire partie de la boîte aux lettres partagée n'aura pas à consommer ou à avoir une licence supplémentaire d'Exchange Online. Donc, il suffit juste que la personne qui est membre ait déjà une licence principale. Enfin, une licence et une boîte aux lettres principale. Donc ici, au niveau de la boîte aux lettres partagée, je vais tout simplement cliquer sur « Nouveau ». Je vais nommer donc une boîte aux lettres partagée, par exemple, pour l'équipe commerciale. Je vais spécifier l'adresse de messagerie. Hop. Et je vais ajouter les membres qui vont accéder à cette boîte aux lettres. Et donc là, je vais choisir Cathy, l'utilisatrice Cathy Jordan. OK. Et je vais cliquer tout simplement sur « Enregistrer ». Voilà, vous voyez la boîte aux lettres partagée et bien créée. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Je vais tout simplement me mettre au niveau de Cathy. Donc, on va voir comment Cathy va pouvoir y accéder. Donc ici, je suis sur l'interface ou plutôt sur la messagerie donc professionnelle Outlook Web App ou Outlook Online de Cathy. Pour pouvoir, donc là, vous voyez que ça ne change pas de l'interface du client riche Outlook. Pour que Cathy puisse accéder à la boîte aux lettres partagée que je viens de créer, c'est assez simple. C'est assez simple. Je vais cliquer tout simplement sur ma photo, enfin, sur la photo de Cathy. Et je vais cliquer sur « Ouvrir une autre boîte aux lettres ». Et je cherche la boîte aux lettres que je viens de créer. Elle s'appelle « Commercial ». Hop, je vais rechercher dans l'annuaire. Voilà, il l'a bien trouvé. Je vais cliquer sur « Ouvrir ». Et là, vous voyez qu'elle accède directement à la boîte aux lettres secondaire, la boîte aux lettres partagée, qui peut être partagée, bien sûr, avec plusieurs utilisateurs. D'un point de vue pratique, ce qu'on propose de manière générale de faire pour que l'utilisateur puisse accéder ou avoir dans une même vue toutes les boîtes aux lettres auxquelles il a accès, en fait, il va pouvoir directement cliquer sur « Ajouter un dossier partagé » et il va pouvoir le retrouver à ce niveau-là. Donc, là, typiquement, je vais faire juste un clic droit sur la boîte aux lettres principale et je vais cliquer sur « Ajouter un dossier partagé ». Hop, voilà, c'est « Commercial », mettre « Ajouter » et je vais le retrouver tout simplement en bas de l'interface. Donc, voilà la petite vue des boîtes aux lettres partagées. Hop, on va revenir maintenant sur le centre d'administration Exchange. Et juste pour terminer sur cette partie, sachez également qu'il y a également des outils de migration qui sont mis à votre disposition, donc qui vous permettent de réaliser en fait plusieurs types de migration, donc selon l'architecture de votre client, selon l'architecture de l'entreprise. Donc typiquement, comme l'a dit Mehdi tout à l'heure, si vous avez un système IMAP, vous pouvez réaliser une migration IMAP. Si vous avez un serveur Exchange et vous souhaitez réaliser une migration vers Exchange Online, donc selon la version du serveur, selon également le nombre d'utilisateurs et la volumétrie des données à migrer, on va vous proposer différents méthodes de migration, comme migration par exemple à basculement, où on va vous proposer de tout migrer en une seule fois, ou encore une migration progressive, où comme son nom l'indique, on va migrer vraiment petit à petit les boîtes aux lettres, ou encore, et encore mieux, on va vous proposer un déploiement hybride qui va vous permettre de faire coexister votre environnement Exchange Server avec votre environnement Exchange Online. Ensuite, on va retrouver également la partie autorisation et juste, je souhaitais également vous montrer une autre façon de faire, d'administration d'Exchange Online, qui est l'utilisation tout simplement de PowerShell. Hop, et on va lancer PowerShell. ISE. Et là, la première chose qu'il faudra toujours réaliser, c'est se connecter justement au service Exchange Online, donc en créant une session. Et pour ce faire, déjà, on va réaliser, donc on va déjà stocker donc les logins mot de passe dans une variable. Par exemple, cred d'un shell. On va utiliser la petite commande get cred d'un shell. Hop. Voilà, et là je vais entrer le mot de passe. Bien sûr, il faudra être administrateur de la plateforme. Et donc, je vais créer une session avec la. Je vais juste copier la petite commande parce qu'elle est un petit peu longue. Donc, je vais faire ça. Bien. On va utiliser en fait la commande new PSS session pour pouvoir créer la session. Et bien sûr, en fait, les logins que je viens de saisir, on va les retrouver ici. Ils vont être bien sûr utilisés pour créer cette session. Donc entrée. Donc la session se crée et je vais importer cette session. Hop. Donc là, le message que vous voyez s'afficher, en fait, ça vous permet justement de... ça montre qu'il y a une communication qui est établie entre justement votre session Windows PowerShell, donc Remote PowerShell, pardon, et Exchange Online. Donc là, c'est bon, la session est ouverte, donc je peux directement administrer et gérer mes services Exchange Online. Et donc là, ce que je souhaiterais faire, c'est justement vous montrer comment on peut créer facilement un groupe de distribution avec PowerShell. Donc pour ce faire, je vais utiliser en fait une commande qui s'appelle New Distribution Group. Voilà, je vais spécifier le nom du groupe. Par exemple, groupe C, je vais spécifier également l'alias, hop, toujours groupe C. Le display name, c'est tout simplement le nom d'affichage qui va apparaître sur l'interface et même qui va apparaître dans l'annuaire global, dans l'annuaire auquel l'utilisateur a accès. Donc là, par exemple, ça sera un groupe de distribution qui sera dédié, par exemple, à un groupe projet. Groupe projet lumière. Allez, on va rester dans la partie lumière. Et je vais spécifier maintenant le type de groupe que je vais pouvoir créer. Est-ce que c'est un groupe de distribution? Est-ce que c'est un groupe de sécurité? Bien sûr, la différence entre les deux, c'est que le groupe de distribution, c'est vraiment un groupe où on va envoyer des messages, alors que le groupe de sécurité, c'est plus dédié à la gestion des accès et des autorisations à certains services, comme par exemple SharePoint Online. Donc là, type distribution. Voilà, c'est bon, le groupe Projet Lumière est bien créé. Et je vais ajouter un premier membre à ce groupe. Add, avec la commande add group distribution group member, pardon. Et je vais ajouter donc l'identité, tout simplement le nom du groupe. J'avais spécifié que ça s'appelait le groupe C. Et je vais ajouter un membre qui est Cathy Jordan. Je vais mettre tout son login, donc MSFR, GPS, démo, Microsoft.com. Ah mince, je me suis juste trompé sur le R, MSFR, GPS, démo. Voilà, c'est parfait. Donc là, normalement, mon groupe est créé. Donc maintenant, je vais revenir sur l'interface graphique donc d'Exchange Online et je vais vérifier que mon groupe est bien créé. Donc là, je vais rafraîchir la page et je vois bien que mon groupe Projet Lumière a bien été créé grâce à PowerShell. Pour continuer, donc maintenant, je vous propose de continuer à explorer donc le centre d'administration d'Exchange. Et rapidement, je souhaitais vous montrer le volet autorisation. C'est à ce niveau-là qu'on va pouvoir justement jouer avec le framework RBAC ou le Role-Based Access Control. C'est là où on va vraiment donner des autorisations d'accès granulaires à certains administrateurs. Typiquement, là, dans cette liste, dans la partie rôle d'administrateur, je vais pouvoir, par exemple, voir des rôles spécifiques. Typiquement, je vois Discovery Management. En fait, c'est un groupe, c'est un rôle de gestion qui va permettre justement à l'administrateur de pouvoir réaliser des recherches au niveau des boîtes aux lettres. Et seul un administrateur qui a ce rôle de gestion va pouvoir réaliser cette opération. Et vous allez pouvoir également voir à l'intérieur de ce rôle de gestion différents sous-rôles qui sont attribués. Il y a également des rôles d'utilisateur. Donc il y a des stratégies de gestion d'autorisation pour les utilisateurs. Il y a également des stratégies de gestion d'accès à Outlook Web App. Ensuite, on a une partie qui est très importante, justement la gestion de la conformité. C'est là où on va retrouver tout ce qui est toute la notion d'e-discovery ou la découverte électronique. Donc je rappelle, c'est vraiment une recherche globale qui va permettre en fait de récupérer des informations, différents types d'informations, que ce soit des informations, par exemple, si je vais récupérer toutes les informations ou toutes les données d'une boîte aux lettres lambda, je vais pouvoir le faire grâce à eDiscovery. Sinon, je vais pouvoir également filtrer sur la base, par exemple, de mots-clés, sur la base de destinataires, d'expéditeurs, de dates, d'horaires, etc. À ce niveau-là, je sens, Mehdi, que tu as une question à me poser.
Exactement, j'ai une très bonne question, Sana. Si j'ai un utilisateur qui a supprimé un élément de sa boîte aux lettres, mais qui l'a complètement supprimé de sa corbeille, il a vidé sa corbeille, est-ce que j'ai toujours moyen de le récupérer avec cet outil de eDiscovery ?
Ah oui, tout à fait. Et c'est justement un des, on va dire, une des principales raisons d'être de cette fonctionnalité. Ça va me permettre grâce à, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, par exemple, si on connaît le mot-clé ou on sait à quelle date environ l'élément a été supprimé, eh bien, on peut directement, tout à fait, on peut le retrouver via la découverte électronique ou via l'e-discovery. Après, on peut même aller plus loin. Et ça, on pourra le faire que via PowerShell cette fois-ci. Si typiquement, lorsqu'un utilisateur il supprime un élément et souhaite qu'il soit restauré directement dans la boîte aux lettres, ça, on va pouvoir le faire uniquement avec PowerShell. Donc, il y a une commande qui s'appelle Search Mailbox qui va me permettre de réaliser ça.
Parfait, merci Sana.
Voilà, et juste pour illustrer ce que je viens de dire, en fait, et avant de terminer la démonstration sur Exchange Online, lorsque je souhaite réaliser une recherche, je vais tout simplement cliquer sur Nouveau. Hop. Et là, je vais par exemple nommer recherche éléments supprimés. Hop, je vais cliquer sur Suivant. Je vais agrandir la fenêtre, c'est mieux. C'est à ce niveau-là où je vais pouvoir spécifier donc à quel niveau je vais devoir réaliser cette recherche, soit rechercher dans toutes les boîtes aux lettres, soit spécifier une boîte aux lettres spécifique. Et donc ici, je vais sélectionner Cathy. Donc Cathy Jordan, la fameuse. Hop. Et c'est à ce niveau-là où je vais pouvoir filtrer en fonction de plusieurs critères. Donc, des critères, ça peut être des mots-clés, ça peut être vraiment la date, le début ou la date de fin. Ça peut être également des expéditeurs, des destinataires. On peut aller plus loin dans le filtrage et spécifier le type d'éléments à rechercher. Ça peut être soit un élément de la boîte aux lettres pure, soit un élément au niveau de la réunion, au niveau des réunions du calendrier. Ça peut être soit un document, donc une pièce jointe que je souhaite retrouver, ou d'autres éléments, par exemple éléments Skype Entreprise. Donc voilà, je vais cliquer sur OK et suivant. À ce niveau-là, je vais avoir la possibilité de placer le résultat de la recherche en conservation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je pourrais le conserver soit indéfiniment, soit pendant une période donnée que je peux préciser. Et je clique sur « Terminer ». Et là, la recherche, elle va démarrer. Et ce qui est également très intéressant, c'est que je vais pouvoir récupérer les résultats et les exporter en fichier PST. Et donc pour exporter, donc là, le temps que la recherche soit un succès, ici, je vais pouvoir justement exporter les résultats qui vont apparaître vers un fichier PST pour les stocker quelque part ou pour des raisons X ou Y. Juste avant de terminer cette démonstration, passer rapidement, il existe également d'autres fonctionnalités dont on peut parler des heures et des heures, mais sachez que vous avez également la possibilité de configurer le filtre antivirus et anti-spam directement via ce portail. Vous pouvez également créer des règles de transport au niveau de la partie flux de messagerie, un usage simple et assez commun lorsque vous souhaitez que, par exemple, pour tout message qui sort en dehors de votre organisation, vous voulez ajouter une signature électronique automatique. Eh bien, vous allez pouvoir le créer grâce à des règles de transport. Vous allez également pouvoir tracer, réaliser un traçage de messages pour être sûr que le message a bien été délivré en temps et en heure, ou en tout cas pour vérifier l'état de livraison du message. Et vous allez pouvoir également vérifier, même configurer des stratégies de gestion mobile, typiquement tout ce qui est synchronisation de messagerie avec un smartphone, pour pouvoir justement, par exemple, ajouter des restrictions ou ajouter, configurer tel ou tel type de smartphone. Je m'arrête là pour la partie démonstration et paramétrage d'Exchange Online. Et ce que je vous propose, c'est de passer à la prochaine section.